Eh bien, j'ai eu la chance, vraiment une chance rare et à laquelle je suis reconnaissant jusqu'à présent, d'avoir pu participer pas au tout premier vol de cette époque héroïque, mais à un temps où tout de même les conditions de vol étaient telles qu'on en reste aujourd'hui effaré. Sur cette ligne, donc, qui avait été établie à partir de 1924-25 entre Casablanca et Dakar, avait eu lieu une dizaine d'épisodes qui relèvent du roman d'aventure le plus extravagant. Mais personne n'en savait rien. L'un d'eux, toutefois, avait attiré l'attention publique parce qu'il dépassait en portée et en matière romanesque les autres. En 1928, un grand pilote qui s'appelait Marcel Rennes, qui est mort depuis comme la plupart de ses garçons en exerçant son métier, Marcel Rennes part un matin d'Agadir, ayant à son bord, comme toujours, un interprète marocain, parce que c'était absolument indispensable, étant donné que les pannes étaient fréquentes et qu'il fallait se débrouiller avec les pillards et les tribus insoumises du Maroc du Sud.
Oui, car la panne, cela signifiait obligatoirement l'atterrissage plus ou moins heureux, mais en tout cas dans un territoire hostile.
Et les captivités de ces pilotes ne se comptent plus. Eh bien, il part donc avec l'interprète Abdallah et un ingénieur de la compagnie qui s'appelait Édouard Serre. C'est le petit matin, il y a de la brume, il vole 2 heures, et puis il n'y a eu ni carte, ni indication d'altitude, rien du tout. Il heurte le sommet d'un plateau qui se trouvait dans le Rio de Oro, qui est le Sahara espagnol, et qui à l'époque, et qui même maintenant, est complètement à l'état du désert le plus sauvage. Il a la chance que juste le centre d'atterrissage est emporté et il peut se poser sur le ventre, sur cette dune. Les voilà perdus, sans moyen de communication puisqu'il n'y a pas de radio. Ils attendent, ils prennent avant tout le courrier, parce que le courrier était la chose sacrée pour laquelle tous ces garçons sont morts, il fallait arriver à l'heure, et le déposent hors de l'avion. À ce moment arrive une bande de Ergibat, c'est-à-dire de la tribu la plus guerrière des morts et complètement insoumise, on les emmène en esclavage. Ils ne sont pas tués uniquement grâce à l'intervention de l'interprète qui dit aux morts qu'ils peuvent tirer une très forte rançon des deux Français. Alors commence une série interminable de négociations, ils demandent des sommes astronomiques, on marchande par l'intermédiaire des Espagnols, puis cela vient jusqu'à Paris, ça dure longtemps. Bref, la captivité de Rennes et de Serre a duré 4 mois. Et pendant ces 4 mois, ils ont crevé de faim, de soif, et leurs mains étaient complètement déchirées parce qu'ils étaient traités en esclaves, et il fallait qu'ils déterrent les petits arbustes ou les petits buissons avec lesquels on faisait le feu chaque soir du campement, et tandis que leurs ravisseurs étaient à chameau, eux devaient marcher derrière, mains liées et trébuchant dans le sable. Alors, naturellement, cette aventure a été connue dans le monde entier. Quand ils ont été libérés dans un état lamentable, on les a fêtés, on a beaucoup parlé d'eux, et puis la ligne a été oubliée de nouveau. Ces garçons, qui étaient tous jeunes, ils avaient entre 20 et 30 ans, qui tous venaient de l'armée, et qui avaient déjà appris dans l'armée la camaraderie de l'escadrille, la voyaient décuplée, centuplée par le fait qu'ils dépendaient tous les uns des autres. Jamais ils ne prenaient le vol tout seuls. Ils étaient toujours accompagnés d'un camarade dont leur vie dépendait. Et vraiment, les camarades prenaient des risques mortels pour se poser dans des terrains impossibles, sous le feu des pillards ou des insoumis, pour ramener leurs copains. Et le lendemain, c'était le copain qui les ramenait. Il y a eu comme ça des histoires dont on pourrait écrire des romans d'aventure qui sont plus exaltants que n'importe quelle fiction.
Ça nous amène à prononcer 2 noms qui sont sans doute les noms les plus fameux de l'histoire de l'aéropostale, le nom de Saint-Exupéry et le nom de Mermoz, qui sont 2 hommes que vous avez connus.
Très bien, ils ont été 2 de mes meilleurs amis et leur mort m'a causé vraiment un très profond chagrin. Mais, alors je vais parler d'eux, mais eux n'aimaient pas qu'on les isolât de l'équipe entière, parce qu'ils savaient, et c'était vrai, que par chance, par talent, par un concours de circonstances qu'on ne peut pas deviner ni préciser, il représentait aux yeux du public cette ligne, mais au fond, il n'était qu'un élément et qu'il y avait d'autres pilotes qui les valaient. Seulement, la chance a fait que d'ailleurs ils ont vécu plus longtemps que les autres et que Mermoz, par sa beauté physique, par cette espèce d'acharnement qu'il avait pour le métier du vol, par son amour des grandes choses et Saint-Exupéry par son talent d'écrivain, ont été désignés à l'attention publique plus que les autres. Saint-Exupéry, lui, était déjà fameux, pas du tout comme écrivain, parce qu'il n'avait rien publié quand je suis passé sur la ligne, mais par son comportement singulier de rêveur, de poète. Il était à ce moment-là chef de l'aéroplace du Cap Juby, qui était un pénitencier espagnol en plein Sahara, et il vivait habillé d'une gandoura toute la journée. Il volait, il allait faire des reconnaissances autour de ce pénitencier dans un avion qu'on lui avait confié, toujours habillé de sa gandoura. Il allait se poser dans le désert, il voyait un aérolite et il montait dessus, fumait sa pipe, rêvait. Ou alors il avait inventé, pour faire des dépannages, de faire ce que jamais les Arabes n'avaient fait, du chameau un animal de trait. Il avait réussi à construire une charrette à deux roues que le chameau traînait à travers le désert. Bref, il était connu plutôt comme un original. Quant à Mermoz, déjà, il était remarqué même par ses camarades pour cette espèce de lyrisme contenu, de passion absolue qu'il avait pour le vol, et aussi par ses qualités de pilote. Et déjà, il avait une légende, comme aviateur militaire, il était resté 4 jours perdu dans le désert syrien. Il ne s'en était tiré que grâce à sa vigueur physique étonnante. Il avait marché 4 jours et 4 nuits. Il avait été captif d'une tribu insoumise du Maroc. Et il n'était plus, quand je suis passé sur la ligne, je ne vais le connaître que plus tard, il n'était plus en Afrique. Il était déjà en train de défricher les lignes de l'Amérique du Sud. Ces lignes de l'Amérique du Sud, quand c'est pour vous montrer l'état impensable des choses à ce moment, la première reconnaissance avait été faite par un pilote de la Técoère sur un Breguet 14, c'est-à-dire de bois et de toile, et les conditions étaient si rudimentaires qu'il avait emmené sa femme avec lui, qui, lorsqu'il y avait des accros aux ailes, recousait la toile des ailes avec une aiguille et du fil. C'était son mécanicien.
Oui, vous avez été mêlé à bien des aventures singulières, mais ne croyez-vous pas que l'épopée de l'aéropostale est finalement l'événement le plus extraordinaire de votre carrière de témoin?
C'est la plus belle aventure et le plus beau fleuron de la France entre les deux guerres. Il n'y a pas de doute. Et il n'y a pas à l'étranger une ligne qui soit constituée dans de telles conditions et qui ait travaillé, malgré toutes les pertes, avec autant d'amour, d'audace et de courage. Cette ligne a coûté 120 hommes, les meilleurs, qui sont morts tous en sachant qu'ils allaient mourir un jour, et les autres ont continué dans les mêmes conditions et avec le même élan.